Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC.
Grand plateau.
Johan Bredov.
Salut à tous, si Tadej Pogacar est en démonstration sur le Tour d'Italie et que Jonathan Milan croque l'essentiel des sprints, le cyclisme tricolore est à la fête sur ce Giro, avec trois victoires déjà après deux semaines de course, chacune nous livrant son lot de belles histoires et de sourires du bonheur. À l'état pur et même bien plus que ça, lorsque sur la 12e étape, Julien Alaphilippe nous a livré un récital qui nous a rappelé de très agréables souvenirs. Le double champion du monde a un palmarès long comme le bras, mais certains le disaient sur le déclin, voire fini, sauf que les champions ne meurent jamais et Alaph a toujours refusé de baisser les bras, a su faire fi des chutes, des blessures, des traumas, des critiques même de son patron Patrick Lefebvre pour aller chercher une victoire sur le Giro et rejoindre le clan des vainqueurs d'étapes sur les trois grands tours. Un seigneur donc, mais son patron d'ailleurs n'a pas manqué de le féliciter, de revenir sur cette victoire lors de Bartoli Time, on débriefera tout ça. Poggi lui-même en a été de son mot, même ses adversaires, car Alaphilippe est de ceux qui mettent tout le monde d'accord. Alors, quel impact donner à cette victoire? En fait-on trop? Est-ce le retour du grand Julien ou juste un barreau d'honneur? On en parle dans Grand Plateau. Et justement, avec moi, j'accueille notre druide Cyril Guimard qui est là. Salut Cyril!
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Tu t'es régalé hein, quand même, hein, sur trois victoires françaises quand même, c'est pas mal hein.
Ben, c'est même très très bien, on n'est pas habitué à cela, donc ne gâchons pas notre bonheur, goûtons-le au contraire.
Ouais, on va en parler de Julien, Pierre Cotchet et Kevin Morand sont là aussi, salut les gars.
Salut Johan, salut à tous.
Ça vous fait plaisir aussi. Ah, le cyclisme tricolore à la fête là.
Alors, ça, on se régale sur ce Giro.
Ciel bleu.
Il manquerait juste quelqu'un pour jouer le général, mais sinon c'est parfait.
Ah, attends, on va en parler. Il y a quand même Romain Bardet qui est pas très loin, mais on va en reparler justement. On va se remettre une petite dose de dopamine avec la victoire de Julien donc sur la 12e étape.
Et on a tellement rêvé de ce moment, il en a tellement rêvé, il a tellement bossé pour ça. Des années de doute, des années à se demander s'il reviendrait au firmament du cyclisme international. 11 mois, 11 jours qu'il n'avait pu lever les bras. 346 jours de doute. Mais les héros ne meurent jamais. Et c'est un héros, Julien Alaphilippe, un héros du sport français, un héros du cyclisme. Il en fait rêver des gamins. Juju, elle est pour lui la victoire. Nino, papa va gagner aujourd'hui. Elle est pour toi, celle-là aussi, Nino. Julien Alaphilippe va aller chercher pas sa plus grande victoire, mais une victoire qui va vouloir dire beaucoup de choses pour lui. Il s'impose sur le Giro, il fait le triplé sur les trois grands tours, il devient le 47e français à lever les bras sur le Tour d'Italie. Julien Alaphilippe s'impose, je vous le disais, les héros ne meurent jamais.
Ah, ça nous a tous rendu fous, ça a rendu fous les commentateurs d'Eurosport qu'on a pu entendre. Cyril, cette victoire, elle est tellement belle, une dizaine de presque un an, on l'a entendu. La dernière victoire d'Alaph, c'était sur le Dauphiné l'année passée. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont toujours cru au renouveau de Julien Alaphilippe, ou est-ce que à un moment, tu ne t'es pas dit qu'on allait plus le revoir à ce niveau et plus le revoir gagner?
On pouvait se poser toutes les questions compte tenu du parcours qui a été le sien depuis un Liège-Bastogne-Liège qu'il a fini dans le fossé. On pouvait se poser la question, mais il faut quand même savoir que le talent ne meurt jamais.
Oui.
Il suffit tout simplement à un moment ou à un autre de le réinitialiser. Et c'est ce que Julien a fait sur ce Tour d'Italie. Bien sûr, pas le jour où il va chercher la gagne, mais dans les jours qui précèdent, où on sentait bien que plus les jours passaient et plus notre Julien commençait à frétiller. Ça veut dire qu'il a remis les boutons dans le bon sens, il a remis l'église au milieu du village, et puis c'est sa victoire à lui. C'est sa victoire à personne d'autre.
Ouais, c'est vrai que c'est une victoire à la Julien Alaphilippe. On va revenir sur le scénario, mais c'est vrai, Pierre, que cette victoire de Julien Alaphilippe vient après énormément de tentatives tout au long du Tour d'Italie. On sait qu'il n'a jamais rien lâché, Julien, et il a vraiment voulu aller chercher une victoire.
Oui, alors il avait annoncé la couleur dès le départ en disant « moi, je ne joue pas le général, je vais faire des coups d'éclat, je vais… » C'est vraiment, c'est d'ailleurs pour ça qu'il allait sur le Tour d'Italie hein, et pas sur son programme habituel du Tour de France ou sur la Vuelta où il avait… servi de numéro 2 à Remco Evenepoel l'année précédente. Là, il était vraiment pour faire des coups. C'est le rôle qui lui convient le mieux maintenant, c'est-à-dire électron libre et sans contrainte au général, sans contrainte vis-à-vis d'un leader. Et il a essayé, il s'est quand même pas mal planté avant cette offensive un peu de la... Un petit côté désespéré quand même, parce qu'on s'est tous dit, au moment où il est parti, il fait n'importe quoi. D'ailleurs, c'est ce que, aussi un peu ce que lui a dit son directeur sportif.
Ouais.
Et il a dit, non mais là j'y vais. Et puis ça a marché, beaucoup grâce à son talent, un peu grâce à la chance, ça c'est la course cycliste qui veut ça aussi. Mais on sait aussi que si ça n'avait pas marché, il aurait réessayé plus tard. Il réessayera plus tard dans la dernière semaine.
Ouais, il avait réessayé de toute façon. Là, on enregistre, on est lundi. Hier, c'était à l'étape de Livigno. Il était encore à l'avant. Julien Alaphilippe, c'est vrai, Kevin, que Pierre l'évoquait, ce scénario, il était complètement fou. Il est parti extrêmement tôt dans la course, Julien.
Bah, quand on l'a vu partir à 125 km de l'arrivée, ouais, avec un coureur de la Politicometa, donc une pro-team... On s'est dit, mais dans quoi il s'embarque? D'ailleurs, il l'a dit, hein, on m'a dit de me relever pour attendre le groupe. J'ai dit non, aujourd'hui, je ne me relève pas. Et en fait, son cousin a dit qu'il partait avec beaucoup d'envie sur ce Giro. Son cousin a dit qu'il avait repéré la première étape, il avait été à l'avant, mais il n'avait pas réussi à ce moment-là à basculer avec les premiers. Il avait aussi fini deuxième quand même de la sixième étape, celle des chemins blancs derrière Pelayo Sanchez. Et devant Luc Plap, là, il y avait eu cette bataille à trois dans le final. Il y avait quand même une petite inquiétude mardi dernier. Il était dans l'échappée, il s'était relevé. On l'avait vu de longues minutes près de la voiture médicale, mais après il avait dit après l'étape que finalement c'était pas le jour qu'il avait prévu, que c'était davantage l'étape de jeudi, donc qu'il a remporté, il avait visé juste. Julien, juste une petite statistique quand même, depuis le début de ce Giro, il est celui de loin d'ailleurs qui a passé le plus de kilomètres dans les groupes qui devançaient le peloton, plus de 600 kilomètres au total, dont 412 dans le groupe de tête.
Ouais, ça y est, c'est devenu un baroudeur, c'était un puncher. Julien Alaphilippe, c'est devenu un baroudeur. Justement, il est revenu, Julien, après la course sur ce scénario. Il a évidemment dédié cette victoire à son fils.
Pour aller chercher des victoires comme ça, je pense qu'il faut être dans une grande journée et j'ai rien lâché, donc ouais, je suis vraiment content. Il y a quelques jours, j'ai loupé les premiers jours d'école de mon fils et voilà, c'est pas pour rien, je suis ici et je vais pouvoir lui ramener ça.
Ouais, Cyril, c'est vrai qu'il a traversé énormément de moments difficiles, tu les évoquais. Mais là, il y a plus que ça avec cette victoire. Il y a une volonté, une source de motivation qui est tout autre. Et bah, c'est la famille, juste. Et ça, ça compte énormément dans ce type de course et surtout dans ce type de scénario.
Oui, de toute façon, on n'est jamais seul. Hein, ou si on l'est, on n'est pas à ce niveau-là. C'est évident. Il faut un certain nombre de facteurs qui vont vous permettre d'un seul coup de trouver la motivation et la surmotivation. Et je crois que les événements de ce début de saison, on va dire le coup de gueule de Patrick Lefebvre d'une part, un changement de programme, on va dire bon ben plutôt que de rester dans la routine d'un programme habituel, on va aller faire le Tour d'Italie, et on sait que le Tour d'Italie c'est des parcours qui lui conviennent peut-être mieux d'ailleurs que les parcours du Tour de France ou du Tour d'Espagne. Donc il a changé beaucoup de repères. On a dit il fait pas de stage, il a pas besoin d'en faire, il habite à Andorre. Donc ça lui permet d'être beaucoup plus serein. Donc il y a tout un tas d'éléments qui ont permis à un coureur qu'on avait envie, il lui manquait quoi, trouver le petit ressort qui fait que d'un seul coup, eh bien, tout s'enclenche dans le bon sens. Il est parti dans beaucoup de coups, oui, mais bon, il savait que tous les coups n'étaient pas bons. Mais bon, tant qu'il était devant, il pouvait se passer quelque chose. Quand il sentait qu'il pouvait pas se passer quelque chose, eh bien, il préférait décrocher et ressortir le lendemain. Et en fait, depuis le départ du Tour d'Italie, il attendait le moment où, d'un seul coup, ça pouvait faire tilt. Et il l'a trouvé à 120 km de l'arrivée. C'est pas anodin, hein, c'est pas anodin. Et puis, c'est un exploit que tous les grands champions ont fait. Si vous prenez Poggi au Strade Bianche, Van Der Poel sur Paris-Roubaix, et je parle même pas de Merckx ou de Hinault, partir dans un coup, au moment où tout le monde pense que c'est une connerie, la connerie c'est de le penser. Et c'est ce qu'ont fait ses adversaires. Comme au Strade Bianche, quand on dit Poggi, il a fait 80 km devant, il a continué. Mais une fois qu'il a eu pris une minute, c'était facile.
Ouais. Mais après, tu gères.
Les autres se sont marchés dessus. Les autres se sont marchés dessus en permanence. Et ils se sont flingués dans toutes les bosses. les plus cuits, c'était pas Poggi, c'est les mecs derrière. Donc il faut oser à certains moments ne pas se poser de questions, sentir de façon inconsciente que c'est peut-être le bon moment. Et en ça, la chevauchée, on va dire, de Julien et de son équipier du jour, parce qu'on peut l'appeler comme ça, Maestri, eh bien, ont défié toutes les grandes théories. Et c'est comme ça que... Eh bien, c'est comme ça que Julien Alaphilippe est tout simplement redevenu Julien Alaphilippe.
Et tu l'évoquais, Mirko Maestri, l'Italien, équipier de luxe. Hein, ils ne font pas partie de la même équipe, la team Polti Cometa pour l'Italien. Mais voilà, c'est son idole, Julien Alaphilippe. Lui, il a senti le coup, il a voulu aider Julien, Kevin. Il y a eu des mots très touchants d'ailleurs entre les deux, beaucoup d'émotions d'ailleurs.
Oui, on a l'impression qu'une belle complicité est née dans ce raid entre Martin Sicuro et Fano jeudi dernier. Les deux hommes ont bien collaboré jusqu'à ce que Julien Alaphilippe ne parte en solitaire à 10 kilomètres de l'arrivée. Mais après la ligne, le Français est allé retrouver son compagnon d'échappée. Leur échange a été capté par des caméras. On a l'impression que l'Italien est exténué, mais presque plus heureux pour Alaphilippe que le Français lui-même. Une accolade remplie d'émotions. Les deux coureurs qui disent chacun leur tour qu'ils se souviendront de ce jour toute leur vie. Au micro de la RAI, après, Maestri a ensuite dit qu'Alaphilippe est son idole avec Peter Sagan. Et il a aussi déclaré « J'ai croisé Julien sur différentes courses, mais je n'ai jamais osé lui demander une photo. Passer une journée devant avec lui était merveilleux. J'ai l'impression d'avoir gagné. Nous avons convenu de ne pas nous attaquer, de nous entendre et d'avancer ensemble. Le simple fait qu'il m'appelle par mon nom me donnait la chair de poule. Alaphilippe m'a aidé, m'a encouragé à continuer, même si sur le dernier mur, je n'ai pas pu le suivre. » Mirko Maestri, pourtant, c'est pas un débutant. Il dispute son 7e Giro. Il a même un an de plus qu'Alaphilippe. Hier, avant l'étape, donc ce dimanche, le coureur français est allé au bus de la Polti Cometa pour offrir justement à Mirko Maestri le maillot qu'il portait lors de sa victoire.
C'est quand même magnifique ça, Pierre, de voir comme ça un adversaire, mais finalement qui a servi d'équipier, qui a amené jusqu'au bout son idole.
Oui, ça en dit beaucoup sur ce que le peloton pense d'Alaphilippe et la place qu'Alaphilippe a dans le peloton. D'ailleurs, il y a eu des mots aussi de Poggi. Il y a eu des mots de pas mal de monde parce que...
On va l'écouter, Pogacar, d'ailleurs.
Tout le monde a... Déjà, tout le monde a réagi dans l'embrouille entre le feu vert et Alaphilippe. Tout le monde avait envie de le soutenir un peu. Et c'est... Et on sent qu'il est aimé, qu'il est apprécié. C'est pas évident dans un peloton où tout le monde se fait la guerre, se fait la course. D'avoir une telle unanimité autour de lui.
Justement, Pogacar qui s'exprimait sur Julien Alaphilippe, on va écouter le maillot rose.
Aujourd'hui, il a montré que c'était toujours l'un des meilleurs coureurs du monde. Beaucoup de gens ne misent peut-être plus sur lui, mais ce qu'il a fait aujourd'hui était, je pense, vraiment impressionnant. C'est une victoire impressionnante, donc oui, c'est le Alaphilippe que nous voulons tous voir.
This is Alaphilippe we all want to see.
Cyril, c'est ce que Pierre disait, il fait l'unanimité quand même. Julien, c'est un statut à part dans le peloton, c'est un immense champion en fait. Hein.
On n'est pas deux fois champion du monde par hasard, ouais. Je ne parle pas du reste de son palmarès, qui est quand même long comme les deux bras. Julien a cette capacité extraordinaire, c'est que Julien, c'est le chef de la colo dans le peloton. C'est quelqu'un qui emmène, qui entraîne, qui fédère. Et c'est quelqu'un qui est toujours aimable, courtois, souriant, qui n'a jamais ou très rarement un mot méchant pour quelqu'un d'autre. Oui, en ce sens, il est aimé dans le peloton, il est respecté, respecté de par sa personnalité, mais aussi il est respecté parce que c'est un coureur qui est généreux dans l'effort à tous les niveaux, qui est capable de se mettre au service de n'importe quel équipier. S'il faut emmener un sprint, même s'il est leader dans une course à étapes, il va venir dans les trois derniers kilomètres et quelquefois c'est même lui qui va lancer qui va prendre le dernier relais ou c'est lui qui va donner la véritable impulsion, la véritable trajectoire. Il est toujours disponible. Et ça, c'est la marque de Julien Alaphilippe.
Ouais, c'est la marque aussi de Tadej Pogacar, en fait, qui est un peu comme ça d'ailleurs, qui est un peu dans le même registre, avec une cote d'amour dans le peloton, il est toujours souriant, c'est ça qu'on aime avec Julien en fait, Pierre.
Et souvenez-vous que quand il y a la chute sur Liège, Bastogne-Liège, il finit dans les sapins, il y a un autre coureur qui s'arrête pour aller l'aider, oui. Il n'est pas du tout dans son équipe, c'est Romain Bardet, qui avait des prétentions sur la victoire à Liège, mais qui s'arrête complètement pour aller soutenir son copain, en fait. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez rarement.
Ouais, c'est vrai que Julien, il a cette cote d'amour. Donc, cet amour, d'ailleurs, ça l'émeut un petit peu. Julien, forcément, il a été interrogé sur ça. Et c'est vrai que ça le touche énormément.
Ouais, ça me touche énormément. Franchement, même là, je viens de faire un kilomètre en passant tous les bus. Et ouais, toutes les équipes sont contentes et me félicitent. Et ouais, ça fait chaud au cœur. C'est vrai que c'est une victoire spéciale. Et je suis content qu'elle ait apporté aussi de la joie à ceux qui ont suivi la course d'hier. Donc, moi, je vais m'en souvenir.
Ouais, il peut s'en souvenir, hein, Julien Alaphilippe, de cette course qui va rester dans les annales. C'est vrai qu'elle est belle, elle est d'autant plus belle qu'elle intervient après des mois, voire des années de galère pour Julien, que ce soit sur le vélo ou en dehors d'ailleurs. Il a vécu beaucoup de déboires quand même depuis quelques temps, Kevin.
Oui, il faut remonter 2 ans en arrière, après avoir déjà chuté sur les Strade Bianche, avoir dû renoncer à Milan-Sanremo, car malade en avril 2022, on en a déjà évoqué, lors de Liège-Bastogne-Liège, Julien Alaphilippe est victime d'une grave chute, il s'est vu mourir, n'arrivait plus à respirer, et c'est là, Pierre l'évoquait aussi tout à l'heure, quand Romain Bardet est arrivé pour s'en inquiéter. Pas de Tour de France 2022, donc un Covid retarde son retour. Il est bien au départ de la Vuelta à la fin de l'été, mais une nouvelle chute dans un virage de la 11e étape le pousse à l'abandon, touché à la clavicule. 2023 devait être l'année pour se relancer, mais les résultats sont poussifs. Une victoire sur la classique Fonardèche en février, une autre sur la 2e étape du Dauphiné. Un bilan trop maigre aux yeux de son manager Patrick Lefebvre, qui commence à délivrer ses pics contre son double champion du monde. Au début de cette année 2024, le patron de la formation belge a dit « Julien est un bon gars, mais après avoir signé son méga contrat, on ne l'a plus vu. Trop de fêtes, trop d'alcool. » Patrick Lefebvre estime que le puncheur serait sous le charme de Marion, peut-être trop. Marion Rousse, évidemment, sa compagne. Pas le meilleur contexte pour arriver donc sur le Het Nieuwsblad, où Julien Alaphilippe chute, abandonne, comme une semaine plus tard sur les Strade Bianche. Ce soir-là, il est en pleurs au téléphone, vraiment touché, raconte Marion Rousse. Le Français soutenu par ses coéquipiers, bien entouré. Sa chute a provoqué une fracture de la tête du péroné gauche. Il continue de courir malgré tout sur les Flandriennes. Pour ne pas, je cite, de chercher des excuses, puis vient la préparation pour ce Giro, chez lui en Andorre, sur le Tour de Romandie aussi, approche payante visiblement pour effacer 2 ans de galère.
Quand on regarde tout ce qui s'est passé, Cyril, on se dit qu'il revient de loin quand même, Julien Alaphilippe. Hein.
Oui, il revient de loin et c'est une nouvelle fois, je vais me répéter, mais la classe des grands. Les grands ne meurent pas, ou alors ils sont complètement en fin de carrière, et là les choses sont différentes, mais à l'âge de Julien, le potentiel est encore intact, donc il suffit tout simplement de remettre tout dans le bon sens et ça va repartir. Et si on revient aux différentes pics de Patrick Lefebvre, moi je me pose la question, est-ce que c'est pas à cause de ces pics que Julien est revenu? Car ça n'est pas par hasard qu'un monsieur qui s'appelle Patrick Lefebvre va utiliser tous les leviers qui sont à sa disposition pour le remettre en route. Le rôle d'un manager, c'est pas uniquement de féliciter à l'arrivée, c'est peut-être aussi à certains moments d'utiliser certains leviers pour faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et c'est vrai que tous les mots utilisés par Patrick Lefebvre, tous les mots ont un sens. Oui, mais il dit pas les choses par hasard. Bon, nous après on se permet, quand je dis nous, pas moi, mais après c'est comme bon, il y a quand même un film qui dure 10 ans entre les deux. Bon, nous on voit des petits bouts de film de 5 minutes sur 10 ans, et eh bien tout le monde s'arrange le droit de juger. Mais si Patrick le fait, parce qu'on sait très bien qu'il y a de l'affect entre les deux hommes, s'il le fait, c'est pour le sauver. Et je crois qu'il l'a sauvé.
Oui. Bon, en tout cas, justement, Lefebvre qui était invité de Bartoli Time, et Marion Bartoli lui a posé cette question, la question où tu as répondu, hein, dont, voilà, Cyril. Est-ce que ce ne sont pas ces pics qui ont permis aux Français de se relever? Et il a répondu, Patrick.
Bon, je ne vais pas mettre ses plumes sur mon chapeau. C'était pas catif, mais quand même, pour moi, j'ai souffert comme lui, parce que je savais qu'il pouvait faire beaucoup, beaucoup mieux, et ça ne sortait pas, donc j'étais frustré.
Tiens, Pierre, Kevin, je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Cyril et avec Patrick, finalement, qui dit qu'il était en souffrance, mais est-ce que ce sont ces pics-là qui ont permis à Julien de se relever?
Alors, dans ce que dit Patrick, dans la première interview, c'est qu'ils ont d'abord discuté en tête-à-tête avec Marion et que ça n'a pas marché et qu'en gros, c'est pour ça qu'ils balancent tout sur la place publique. Moi, j'ai trouvé alors, ça un peu violent, effectivement, comme façon de régler ça devant tout le petit monde du vélo et tous les supporters français. Après, effectivement, Julien a eu l'air de le prendre comme le dit Cyril, hein, c'est-à-dire qu'il a, il n'est pas rentré dans une guerre, il a encaissé pour montrer sur le vélo de quoi il était capable, donc ça, de le prendre pour avec un effet positif. Donc peut-être que ces pics ont permis ça, ou mais ce qui est sûr, c'est qu'il fallait aussi un électrochoc à un moment pour pas finir sans cette étincelle, en fait.
Ça l'a quand même mis dans un premier temps dans un mood un peu bizarre, parce qu'en plus il y a eu ces chutes, donc comme je disais, sur Het Nieuwsblad et Strade Bianche, c'est arrivé juste avant. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Peut-être pas. Et ça a quand même compromis le début de sa saison. Et juste quand même sur les résultats, notamment de l'année dernière, ça a aussi une conséquence, c'est que Franck Alaphilippe, qui était son entraîneur au sein de la Soudal Quick-Step depuis 4 ans, n'a pas eu son contrat de renouveler au sein de la Soudal Quick-Step. Il est toujours son entraîneur comme il l'est depuis cadet, mais en dehors de la structure belge. Et ça, c'est aussi une, sans doute, des conséquences de ce manque de résultats des deux dernières années. Donc maintenant, il est Julien, plus avec Tom Steele, c'est Dries De Venens qui a pris sa retraite l'hiver dernier et qui est devenu son directeur sportif référent au sein de la Soudal Quick-Step.
Est-ce qu'après cette victoire, Cyril, tout est gommé entre Alaphilippe et Lefebvre et on repart de zéro?
Alors, tout est gommé, non, on n'efface pas l'histoire. Je sais que c'est à la mode en ce moment. Mais l'histoire, elle existe et c'est à cause de l'histoire ou grâce à l'histoire que l'on peut construire demain. Mais si on veut gommer l'histoire, on ne va pas construire demain. Quand on parle de l'entraîneur de Julien qui a quitté ou qui a été remercié, peu importe, en fait, Julien, il a retrouvé sa structure à lui. Avec son entraîneur. Son entraîneur étant devenu l'entraîneur également de d'autres coureurs, il y avait une perte de temps pour travailler avec Julien, puisqu'il fallait travailler avec les autres. Là, ils sont revenus dans le vrai schéma, celui qui a permis à Julien de porter pendant 2 ans le maillot de champion du monde. Donc, il a retrouvé sa structure de base. Et ça, c'est aussi important. Et puis, si on va plus loin, dans toute cette affaire, bon, il y a ce qu'on entend, et puis il y a tout ce qui est véhiculé en dehors, c'est-à-dire tous les non-dits. Et donc, il y a un moment, il faut arrêter les non-dits. Et quel risque prenait Patrick? En fait, il n'en prenait aucun. Il ne bougeait pas. Qu'est-ce qui se passait? Rien. Et Julien serait peut-être encore toujours dans le tunnel bien noir. Il aura quitté l'équipe à la fin de l'année, etc. Là, tout est encore possible. Oui. Et que Julien reste avec Lefebvre, c'est aussi possible.
Ben c'est ça. Lefebvre qui, d'ailleurs, ne ferme pas la porte à une prolongation de contrat pour Julien. Et ce dernier non plus, c'est ce que le Belge nous a dit.
Julien, chez nous, je l'ai découvert quand il avait 17 ans, ici dans un petit cyclocross à la côte belge. On a toujours eu une relation un petit peu spéciale, il me considérait un petit peu comme son deuxième père, disons. Et dans son cœur, il n'a pas beaucoup changé, c'est toujours lui, il a naturellement vieilli, il a maintenant un ménage. Mais il ne veut pas vraiment changer d'équipe, mais il a aussi le côté professionnel, naturellement.
Cyril, il ne veut pas vraiment changer d'équipe, Julien Alaphilippe. Est-ce que tu le crois, Patrick Lefebvre? Est-ce que d'ailleurs tu crois à une prolongation de contrat de Julien chez la Soudal Quick-Step?
Oui, il ne faut pas dire que ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. C'est possible, comme le dit Lefebvre, je n'avais pas entendu l'interview, mais je trouve qu'on est assez proches quand même sur les analyses. Et puis, il va aller où?
Ah! Bah c'est la question. On parle de plusieurs équipes françaises qui seraient dessus.
Oui, mais tout le monde est dessus.
Oui, bah oui, c'est Julien quand même. Oui,
oui quand même. Donc après, il y a, comme le dit Patrick, il y a le côté professionnel. Oui, on va dire, il y a le chiffre que tu mets en bas du chèque. Bon, ça c'est une chose, mais on ne réalise pas des carrières avec le chéquier.
La vraie question, c'est pourquoi faire, en fait, dans quelle équipe et pourquoi faire. Si c'est pour être leader du Tour de France sans pouvoir viser les générales, sans avoir vraiment d'équipe, ou d'être le porte-flingue d'un des quatre qui pourrait espérer gagner le Tour de France, je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup Julien. Si c'est pour avoir un rôle d'électron libre et faire à peu près ce qu'il veut et gagner dès qu'il y a une occasion, là peut-être. Est-ce que c'est à la Quick-Step? Pour l'instant, c'est le rôle que là on lui donne. Mais d'ailleurs, dans cette même interview de Patrick Lefebvre, ils évoquent leur rôle au Tour de France, leur rôle par rapport à Remco, et tout se joue un peu autour de ça pour Alaphilippe à l'avenir.
Ouais, on va y venir d'ailleurs sur Alaphilippe présent ou pas au Tour de France. Kevin, toi, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée pour Julien de rester chez la Soudal Quick-Step après tout ce qui s'est passé?
Je pense que peut-être que le moment est venu pour lui à 32 ans bientôt de voir autre chose et de finir en fait sa carrière, autant être clair, pourquoi pas dans une structure française, chez lui, et avoir ce rôle aussi d'électron libre qui correspondrait peut-être bien à la philosophie par exemple de Total Energy, qui en plus a les moyens financiers pour se le permettre. C'est pour moi l'équipe qui serait la plus... encline à le recruter.
Ouais. Cyril, non, toi, tu n'y crois pas. Pas d'équipe française pour Julien? Ça lui irait pas?
Bon, écoutez, d'abord, je parlais tout à l'heure d'un prix, d'un chiffre en bas d'un chèque.
Ouais.
Il n'y a pas que ça quand vous êtes dans une équipe française et vous connaissez tout ce que peuvent dire les managers des équipes françaises. On n'est pas à égalité sur le plan financier avec les équipes étrangères. Parce qu'on a un système qu'il est ce qu'il est, point. Mais à l'étranger, le problème est totalement différent. Donc sur le plan économique, même si vous avez le même chiffre en bas du chèque, vous n'avez pas le même bénéfice à la fin de l'année. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Et puis passer d'une World Tour pour aller dans une équipe de deuxième catégorie, honnêtement, je ne sens pas.
Oui, c'est sûr.
S'il va dans une World Tour, ok, mais Alaphilippe, il ne peut pas non plus aller dans une équipe qui a une puissance collective divisée par deux par rapport aux quatre ou cinq grandes équipes mondiales. Ça n'a pas de sens non plus. Donc, il faut bien réfléchir dans ces cas-là. Il faut analyser toutes les composantes. Et comme je dis souvent, vous prenez deux feuilles. Sur la feuille de droite, vous mettez pour, et sur la feuille de gauche, vous mettez contre. Et vous faites le bilan en bas. Donc ça inclut bien sûr le côté économique, mais ça doit aussi inclure un autre facteur dont on parle beaucoup, et on le sentait d'ailleurs dans la voix de Patrick Lefebvre, toute la partie sentimentale, tout ce qui est de l'affect. Et aujourd'hui, Julien, je le disais, c'est quelqu'un qui emmène, c'est quelqu'un qui fédère, c'est quelqu'un qui donne envie. Bon, il a donné envie à cette équipe depuis plus de 10 ans. Il est chez lui. Il a énormément... l'ensemble du personnel et des coureurs sont des gens qui l'admirent. Et pour lequel il a travaillé, et les autres ont travaillé pour lui aussi. C'est pas parce qu'il y a eu un petit tunnel de 2 ans, mais peut-être qu'il était nécessaire, je ne sais pas. Je vais pas faire de la science-fiction, mais peut-être que sans cela, il serait peut-être dégrainé progressivement, tout doucement, sans même s'en rendre compte, et dire à 33 ou 34 ans, j'arrête de courir. Là, il a retrouvé la flamme, et il l'a retrouvé dans son équipe, avec ses coureurs et son encadrement. Il faut jamais oublier ce facteur-là. Quand vous partez et que vous faites fi de tout le côté sentimental des choses, vous allez devenir un robot ailleurs.
Oui, mais d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Patrick Lefebvre lors de cette interview, c'est qu'il a retrouvé le Julien avec le sourire, et c'est comme ça qu'on l'aime à la Philippe, c'est comme ça qu'il va chercher de grands exploits. Il y en a un autre aussi qui est content et qui voudrait bien le garder sous le coude et près de lui, c'est Remco Evenepoel, que ce soit pour l'année prochaine, mais surtout pour le Tour de France. Il fait le forcing, le Belge, pour tenter de convaincre Julien de le suivre sur le Tour. Mais voilà, selon Patrick Lefebvre, le Français, il n'a pas vraiment envie.
Je l'ai appelé le soir de sa victoire. Honnêtement, je ne suis pas convaincu qu'il vraiment veut le faire. Je dis, mais si l'équipe me dit que je dois aller comme, disons, pour aider Remco, je vais le faire. Mais ce n'est pas du plein cœur, je pense.
Ouais, il n'y a aucune envie du côté de Julien, Cyril, d'aller sur le tour. Et dans ce cas-là, vaut mieux pas prendre le coureur. Hein.
Ah, c'est évident, mais c'est pas aussi ferme que ça, hein, dans la façon dont les choses sont dites. Il n'a pas très envie, ce qui ne veut pas dire que... Oui, parce que les choses évoluent. Sa victoire, là, elle va changer beaucoup de choses, y compris dans son approche psychologique. Là, il va finir le Tour de France, le Tour d'Italie, pardon, j'y suis, lapsus. Il va rentrer chez lui... il va avoir un certain temps pour se restructurer, se régénérer, et l'envie peut revenir très tôt. Physiquement et physiologiquement, vous avez largement le temps de faire une bonne récup, une reprise de travail, un plan d'entraînement qui peut vous amener à être au top au Tour de France. D'autant qu'il n'aura pas sur le Tour de France la pression du leader. Il aura Evenepoel à côté de lui, et s'il a vraiment envie, il sera le poisson pilote de celui qui peut éventuellement gagner le Tour de France. C'est un rôle beaucoup plus précis que celui qu'il a déjà eu sur ce plan-là, et n'oublions pas qu'il a des qualités au sein d'un peloton. Il a même des amitiés au sein du peloton. Evenepoel n'est pas le coureur le plus adroit. C'est pas le coureur qui sent le mieux les coups. Quand vous avez Alaphilippe à côté de vous, vous risquez pas grand-chose.
Bonne ou mauvaise chose, Alaphilippe, sur le tour, Pierre ?
Ben, en fait, moi, je comprends très bien que Evenepoel ait envie d'avoir Alaphilippe avec lui, et ça fait complètement sens. Je suis pas sûr qu'Alaphilippe ait envie de refaire ce qu'il a déjà fait pour Remco sur le Tour d'Espagne, et qu'il a très bien fait. Mais qui le bride énormément dans ce qu'il peut faire sur un vélo, et qu'il est peut-être plus à un moment où il a envie de ça. Après, il le fait vers le dit, il fera ce qu'on lui demande, et il a toujours été comme ça aussi, hein, Julien. Il a toujours respecté les consignes d'équipe, il a toujours fait ce qu'on lui demandait de faire, donc il le fera si on lui demande, mais je suis vraiment pas sûr qu'il y trouve son compte.
Ça montre surtout en fait peut-être des manques structurels au sein de la Quick-Step pour accompagner un candidat pour être leader au classement général. Si Remco Evenepoel veut Julien Alaphilippe avec lui, c'est que il estime que ce serait une arme en plus par rapport à ce qui est prévu. Et puis il y a aussi quand même la question du calendrier pour Julien. Est-ce que il vise les Jeux Olympiques, puisque j'imagine que ce Giro là va faire réfléchir le sélectionneur sur une sélection. Est-ce qu'il y a les championnats du monde à Zurich ensuite, au mois de septembre? Il a commencé la saison quand même en Australie au mois de janvier, donc pas tout faire Julien Alaphilippe non plus.
C'est un peu comme quand Vingegaard veut absolument avoir Wout van Aert avec lui sur le Tour de France. On peut aussi comprendre que Wout van Aert, bah, plusieurs fois, ça commence à le saouler un peu en fait.
Ouais, puis l'équipe là, je regarde, prévue pour la Soudal Quick-Step, elle est quand même pas mal. Il y a Mikel Landa qui devrait être là pour accompagner Remco Evenepoel, Ilan Van Wilder qu'on connaît bien, qui a accompagné Evenepoel sur les Vuelta, Louis Vervec. Mais voilà, pour Van Wilder et Vervec, finalement, Cyril, c'est des coureurs qui connaissent très peu, voire pas du tout le Tour de France. C'est aussi ça la plus-value de Julien sur un tour, c'est qu'il connaît cette course par cœur, qu'il va partager l'attention médiatique avec Remco Evenepoel, et ça pèse, hein.
Oui, ça pèse. Oh, la pression médiatique, il a les épaules larges. et c'est logique, si tu veux être un champion, ben, il faut supporter la pression. Ou alors, tu vas dans les courses de quartier. Mais tu n'essayes pas de gagner les plus grandes courses si tu n'aimes pas la pression, si tu n'aimes pas la popularité, si tu n'aimes pas qu'on t'interviewe. Ça n'a pas de sens. Mais il faut quand même dire une chose qui est importante. D'abord, il a déjà brillé sur le Tour, Julien, mais vraiment brillé.
Ouais, plus que brillé. Ouais.
Je ne suis pas certain qu'à la pédale, il soit capable de refaire tout ce qu'il a fait. Ceci dit, quand on a un grand leader à côté, c'est souvent là qu'on réalise de très très belles performances. Je vais vous donner quelques exemples. Jean-René Bernaudot, poisson pilote de Bernard Hinault, il va faire 3e d'un Tour d'Espagne et 5e d'un Tour de France. Greg LeMond, avant de gagner le Tour, il était avec Fignon, il fait 3e. Et il a gagné le Tour derrière. Et je pourrais en prendre d'autres exemples comme ça. Quand vous avez un grand leader et que vous jouez une autre partition à côté de votre grand leader, les portes s'ouvrent. Et pour Julien, les portes, il peut s'arranger pour qu'elles s'ouvrent, pour qu'il existe en dehors de Evenepoel. Et ça, il sait très bien faire.
Un petit détail, je ne sais pas si ça va compter dans sa réflexion, mais il y a quand même une étape, celle du 9 juillet, qui arrive à Saint-Amand-Montrond, c'est-à-dire chez Julien Alaphilippe.
Ouais, ça pourrait peut-être compter, ça, évidemment, pour Julien. Bon, on verra ça, on aura le temps, en tout cas.
Je vais vous faire une dernière réflexion qui peut peser dans l'analyse. Pendant le Tour de France, Marion, elle sera sur le Tour.
Aussi.
Et lui, il sera tout seul chez lui. Ça peut peser, on ne sait
ça
jamais.
Ça ne faut pas le dire à Patrick.
Ah, mais il faut garder le petit aussi. C'est ça. Il faut que Julien soit à la maison. Il faut garder Nino. Juste une question avant de parler du palmarès de Julien Alaphilippe, parce qu'on va voir à quel point c'est un coureur exceptionnel. Mais vous allez me répondre très rapidement. Est-ce que cette victoire marque le retour du grand Alaphilippe, Pierre?
Le retour du très bon Alaphilippe.
Du très bon, mais pas du grand.
Le grand Alaphilippe, il est double champion du monde.
Ah oui.
On attendait une réponse de lui sur ce Giro, après ce début de saison galère, ces deux dernières années. Et je pense qu'il a quand même montré des indices. Il est sur la bonne voie, voilà.
C'est ça. Cyril, t'en penses quoi?
Écoutez, il est revenu à son meilleur niveau. Ce qu'il a réalisé, quelque chose de très fort, mais aussi très important pour la suite de sa carrière. C'est un point, j'ai presque envie de dire, il a refait un point zéro et il repart pour un nouveau chapitre. Qu'il redevienne aussi fort qu'il l'a été, j'ai presque envie de dire, il en a pas besoin. En étant un tout petit peu moins fort, avec le statut qu'il a, la science de la course qu'il a intégrée aujourd'hui, il peut avoir à peu près les mêmes résultats. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, il sera toujours la plaque tournante.
Ouais. Bon, Julien qui a une place toute particulière, on l'a vu au sein du peloton, au sein des Français évidemment, mais pas seulement, car il fait partie juste des immenses champions du vélo au 21e siècle. Et d'ailleurs, ce succès sur le Giro le fait entrer un petit peu plus dans l'histoire, Pierre.
Oui, parce que Julien Alaphilippe, c'est 42 victoires, quand même pas mal, deux championnats du monde, donc 2020-2021, et une victoire d'étape sur chacun des trois grands tours, ce qui est assez rare.
Un seigneur.
Voilà, c'est un monument, Milan-San Remo, et presque deux, mais il a levé les bras trop tôt à l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège, qui est un peu plus rentré dans la légende aussi. Donc Alaphilippe, c'est d'abord un puncher, mais il a gagné sur tous les tableaux. Il a gagné des trois contre la montre, dont un sur le Tour de France. Il a gagné trois courses par étape. Je ne sais pas si vous les avez, mais ce n'est pas simple à trouver.
Cyril, tu les as, les courses par étape gagnées par Julien?
Non, mais ça n'a plus d'importance aujourd'hui.
Ouais, bon, il ne regardera plus, certes. Mais...
C'est Tour de Californie 2016, devant Peter Sagan.
Oui.
Tour de Grande-Bretagne 2018 et Tour de Slovaquie 2018. Donc, ce n'était pas non plus des grandes
voilà,
courses.
Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas les courses qu'on va se rappeler. Quoi.
Voilà. Reste après les grands tours. Donc, il a été maillot à poids sur le Tour 2018. Et son meilleur résultat, c'est la cinquième place sur le Tour 2019, où il a quand même porté le maillot jaune sur 14 étapes. Qui est son
oui,
meilleur
résultat. C'est plus important que le Tour de Grande-Bretagne.
Voilà. C'est en même temps son moment de gloire et sa grande rencontre avec le public français, et c'est en même temps son plafond de verre, ce Tour de France 2019.
Ouais, c'est vrai que de toute façon, c'est le plafond de verre. C'est une immense frustration pour tous les Français, parce qu'il y avait lui, il y avait Julien Alaphilippe, il y avait Thibaut Pinot, surtout sur ce Tour de France 2019. On avait fortement vibré, mais voilà, victoire d'étape quand même sur les trois grands tours. Cyril, ça pose un homme, hein.
Oui, bien sûr. Bon, beaucoup d'autres coureurs ont réalisé le fait de gagner sur les trois grands tours, mais déjà, il faut les faire.
109, ils sont 109.
Parce que...
C'est peu au final.
Parce que moi, personnellement, je n'ai pas pu gagner d'étape sur le Tour d'Italie, je ne l'ai jamais fait. mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. C'est bien parce que, bon, on s'en sert en termes de statistiques. Et il faut continuer d'ailleurs à s'en servir parce que, comme vous le dites, oui, ça marque. C'est quelque chose qui classe un coureur capable de gagner sur les trois grands tours. Mais bon, moi, ce n'est pas les choses qui m'impressionnent, ça, moi. Ces 120 km où il part à contre-temps et où ça fait tilt, oui, ça me parle. Après, c'est des circonstances de course qui font que... Mais ce qui est important pour moi, c'est que Julien Je le disais tout à l'heure, il y a quelques instants, il fait 1.0 et il part pour un nouveau chapitre. Pour moi, c'est ce qui est important, c'est ce chapitre.
À quel rang tu le places, Julien, Cyril, dans le cyclisme français? J'imagine qu'il est très haut.
Ah, dans le cyclisme français, oui, bah vous avez Antilino, et puis après vous avez Julien Alaphilippe, et il y a 5 ou 6 coureurs qui sont à son niveau ou proche de son niveau. Après, ils sont plus ou moins populaires en fonction de leur personnalité, de leur caractère, ou plus ou moins bien perçus. Mais bon, quand vous enlevez Hino et Anctil, il arrive juste derrière pour y ajouter André Darrigade, par exemple, ou Jean Stablinski. Louison Bobet, qui a quand même gagné Paris-Roubaix, le Tour des Flandres et trois fois le Tour de France. Un peu chahuté sur des Giro, mais il n'a pas été le seul. Il fait partie des 6-7 plus grands champions français de l'histoire.
Pour compléter ce que tu dis, Cyril, c'est le 10e français vainqueur sur 3 grands tours. Hein. Donc il y a certains que Cyril a déjà cités, Pinot, Jalabert, Fignon, Thierry Marie, Hino, Motet, Jean-François Bernard, Anctil et Stablinski. Donc voilà, il est dans... dans cette catégorie-là.
C'est des petits noms, ça pire. Voilà. Moi, je suis étonné, Cyril. Je pensais pas que tu allais le mettre aussi haut, Julien Alaphilippe, dans le palmarès français. Mais c'est vrai qu'il y a ce double titre de champion du monde, en plus consécutif 2020-2021. Déjà, c'est le meilleur coureur, je pense, du 21e siècle en France. Il n'y a pas mieux, surtout pour notre génération. Je vais parler de la mienne, mais moi, j'ai connu que Julien, quoi. J'ai pas connu de vainqueur de Tour de France. Mais il est extrêmement haut. Pierre, tu es d'accord avec Cyril?
Ah oui, alors Darrigade, j'ai pas vu.
Je me doute bien.
mais oui, pour moi, il est extrêmement haut.
Darrigade, il a gagné Tour de Lombardie. Ouais. Il a aussi été champion du monde. Il a gagné 22 étapes sur le Tour de France. Il a dû porter le maillot jaune sur l'ensemble de ses tours 15 à 20 fois. André Darrigade, il a été champion de France. Attendez, c'est pas n'importe qui.
Ah non, j'ai juste dit que je l'avais pas vu courir. Mais alors, je le mets très haut. Je le mets effectivement plus grand coureur français du 21e siècle. Et là où il m'impressionne.
Oui, ça c'est facile.
Oui. Et là où il va très haut, c'est parce qu'il est vraiment tout terrain. On l'a vu presque sur les arrivées au sommet, on l'a vu sur les contre-la-montre, on l'a vu notamment au début de sa carrière beaucoup dans les sprints, on l'a vu évidemment en puncher, on l'a vu quand il fallait sortir à 15-20 bornes sur ces deux championnats du monde où il a quand même battu les Belges chez eux, ce qui n'était pas rien, surtout après avoir fait le même coup juste avant Imola. Donc je le mets effectivement dans le top 10, dans le top 10 de l'histoire.
Ouais, bah top 10 de l'histoire pour Julien Alaphilippe. Kevin, t'es d'accord?
Ouais, c'est ça qui est beau avec Julien, c'est le sprint, c'est les petites attaques. Et je pense que cette victoire là, dans un registre différent, celle sur le Giro, c'est la plus belle de sa carrière, peut-être avec le championnat du monde 2021 à Louvain, où il avait réussi à partir de 50 km de l'arrivée à essorer les deux Belges Van Aert et Van Poel et pour s'imposer en solitaire après. C'est voilà, c'est ça, c'est Julien et la classe à la française, je crois, a dit son compagnon.
Je l'ai plus en tête.
Non plus, mais bon, bref. La classe à la française en tout cas.
Ouais, Julien Alaphilippe qui est très haut, évidemment, il nous a fait vibrer sur cette 12e étape. Donc, on a cherché une des plus belles victoires de sa carrière, en tout cas, dans le symbole. Il sera encore à l'avant en cette dernière semaine. On va s'attendre à le revoir devant Julien, lui qui a déjà remis le couvert, comme je le disais dimanche, donc sur l'étape de Livigno, remporté par le glouton Tadej Pogacar qui a croqué, qui a avalé tous ses concurrents. Allez, c'est l'heure du baromètre des favoris.
RMC, le baromètre des favoris.
Oui, parce qu'on va parler quand même de cette deuxième semaine de course sur le Giro. Tadej Pogacar, en démonstration, il avait déjà réalisé un coup énorme sur le chrono. Il avait échoué derrière Philippe Ogana pour le deuxième chrono de ce Giro, mais il avait repris du temps, il avait pris même du temps à tous les autres outsider, c'est même plus des favoris pour la victoire finale. Et donc ce dimanche sur Livigno, il a réalisé une course incroyable C'est presque banal de voir ça avec Tadej Pogacar, Cyril, mais l'exploit, il est monumental. Il est parti avec plusieurs minutes de retard sur les échappés et il les a avalés un par un pour revenir d'abord sur Steinhauser, le jeune Allemand, puis sur Nairo Quintana pour aller s'imposer dans une des, là aussi, une des plus belles victoires de sa carrière, finalement, Cyril.
Alors, une très très belle, la plus belle, il en a tellement.
c'est ça le problème avec lui.
Bon, j'ai presque envie de dire, elle était programmée, ils avaient laissé partir l'échappée, elle avait presque 3 minutes d'avance. Il sort à 15 bornes du sommet, ou à peu près. Après, il va regarder ses watts, il sait que de toute façon, en étant très linéaire, il ira chercher tout le monde, y compris Quintana. D'ailleurs, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, le Colombien. J'ai presque envie de dire, je me demande s'il s'est fait mal même dans cette montée. tellement ça paraissait facile et évident. Donc Pogacar est parti sur le Tour d'Italie pour l'emporter. Il n'a pas fait de faute jusqu'à maintenant. Chaque fois qu'il a pu prendre du temps, il l'a pris. Il y a des fois où il aurait pu en prendre et il est resté sur la réserve. Il a su gérer aussi de façon à ne pas être trop cannibale ou trop glouton. Mais bon, quand vous avez une arrivée au sommet, vous pouvez pas quand même faire de cadeaux. Il est rendu à 4 victoires, il reste une semaine, il risque d'en gagner encore peut-être une ou deux, ça l'amènerait à 6. Ça l'amènerait pratiquement au niveau des plus grands champions sur les grands tours qui arrivaient à gagner entre 4 et 7 étapes.
Il va peut-être en laisser quand même, Pierre, des victoires.
Là, je pense qu'il voulait vraiment marquer le coup. Il avait toujours cette petite rengaine de « attention Pogacar, quand ça monte trop en altitude, il a du mal. Attention, quand il y a plus de 5000 mètres de dénivelé, parfois il a du mal. » Là, il avait une étape de 220 bornes avec plus de 5500 mètres de dénivelé positif.
C'était la plus dure.
C'était la plus dure. Il a vraiment marqué le coup. Et là, chez la Visma, on ne peut plus dire « alors oui, regardez ». Dès qu'il y a du dénivelé, dès qu'il y a 5000, il craque. Là, c'est fini.
En plus, les images sont magnifiques. Sous la neige, Tadej Pogacar, il avait coché cette victoire à Livigno, une ville qu'il connaît très bien. T'es impressionné, toi, Kevin, par ce qu'il a fait ?
Impressionné, oui, mais en même temps, on avait souligné avant même ce Giro la faiblesse de la concurrence. Donc, c'est aussi à mettre en balance. Et puis, il peut faire ce qu'il a fait ce dimanche-là aussi parce que la deuxième semaine, il l'a couru pas à l'économie, mais il n'a pas eu à forcer son équipe non plus. Il y en a d'autres qui s'en sont chargés pour eux, la Bora, la Bahreïn. Donc, finalement, c'est aussi grâce à ça. Et puis, ça va l'aider. Il y a pas le Stelvio qui a été enlevé de l'étape là, de ce mardi.
Heureusement pour ses adversaires.
Ouais, c'était en début d'étape, donc je suis pas sûr qu'on aurait vu Tadej Pogacar partir à 100 bornes de l'arrivée, même sur le Stelvio, quoique. Mais bon, là, ça y est, il a fait le trou, il a plus de 6 minutes et 41 secondes d'avance, donc après la deuxième semaine. Bref, ce qu'a fait Tadej Pogacar, c'est juste incroyable. Et ce qui est dingue, c'est qu'on se demande si on est impressionné, on dit « oui, bon, c'est Tadej ». Ça aurait été n'importe quel autre coureur, alors ça aurait été un exploit monumental, mais voilà ce que nous procure Tadej Pogacar. Justement, les écarts sur cette étape, l'arrivée à Livigno, 29 secondes sur Nairo Quintana, t'en as parlé Cyril, Steinhauser, le jeune Allemand qui pointe à 2 minutes et 32 secondes, et ensuite en quatrième place, et on est content de le voir parce que lui aussi a réalisé une belle étape à 2 minutes 47 secondes, donc déjà les écarts sont incroyables, mais c'est Romain Bardet, Cyril, Romain qu'on retrouve, il a eu des difficultés en début de Giro, il était malade. Et là, ça y est, on a retrouvé le vrai Romain. Il a essayé, il a tenté, et c'est ça qu'on veut. Hein.
Oui, non, il marche sur cette deuxième semaine. Il a fait de très belles prestations. Il rate une étape, mais bon, c'est moins grave. C'est un Français qui l'a emporté. Non, il fait un très bon Giro qui est pas fini. J'espère pour lui qu'il arrivera à aller en décrocher une. Ça serait quand même vachement bien.
Le top 5, tu crois pour Romain ? Il a 23 secondes de retard sur Tibéri.
S'il veut gagner une étape, c'est pas évident. Quoi. Parce que s'il veut gagner une étape, il va être dans l'obligation de prendre des risques. Et si ça marche pas, derrière, il va perdre du temps.
Je pense que pour le top 5...
Moi, je pense que qu'il continue à jouer pour essayer de gagner une étape, s'il fait 7e ou 8e du Tour d'Italie, ça ne marquera pas les esprits de tout le monde. Nous, oui, mais ça sera bien pour lui. Mais une victoire d'étape, aujourd'hui, c'est ce qu'il lui faut.
Ouais,
c'est ce qu'il lui faut.
Oui, je pense. Alors, oui, l'idéal pour lui serait une victoire d'étape. Et je pense que pour le top 5, ça dépend plus de Tibéri que de lui. Parce qu'autant Romain Bardet, sur 3 semaines, il n'y a plus de contre-la-montre, il y a beaucoup d'arrivées en altitude, on connaît, ça va le faire. Tibéri, il a eu du mal à Livigno.
Ouais, il a craqué à Livigno. Ouais.
C'est un peu la première fois qu'on le voit à ce niveau et sur une course d'une telle longueur et d'une telle difficulté. Je ne sais pas s'il en est capable et j'ai l'impression que lui non plus n'est plus trop sûr. Et ce qui peut coûter cher à la fin. Donc 1 minute 25, elle est peut-être là en fait.
Moi, je le vois, je suis gourmand pour lui et je pense qu'il va chercher une victoire d'étape et ça sera sans doute synonyme de top 5.
Bon, on espère. Pour Romain Bardet, il y a quand même Thiemen Arendsman hein, qui est l'équipier de Geraint Thomas qui est là, qui est en 6e position. Antonio Tibéri en 5e, Ben O'Connor en 4e. Et le podium, j'ai l'impression qu'il s'est un peu dessiné sur l'étape à Livigno, Cyril, entre Geraint Thomas et Daniel Martinez qui ont lâché Ben O'Connor. Ça y est, en fait, on a le podium. Pogacar, évidemment, premier. Et ensuite, ça sera Geraint Thomas et Daniel Martinez. Cyril ?
Non. Là, pour le podium, ils sont trois. Hein.
Avec Ben O'Connor.
Geraint Thomas, Martinez et O'Connor. Oui. Les trois, les écarts, c'est 1 minute entre les trois. Ouais. Donc, vous savez, une petite défaillance à 1,5 km d'une arrivée au sommet et vous dégueulez votre avance. Hein. Non, je pense que la deuxième place pour l'instant appartient à celui qui va le mieux marcher cette semaine.
Ouais.
Des trois.
Ouais, forcément. T'es pas inquiet pour Ben O'Connor quand même qui a craqué hein, finalement et qui a perdu un petit peu de temps sur les deux autres hein, lors de l'arrivée à Livigno sur les pentes difficiles. Bon, il a perdu 8 secondes, mais quand même, il a craqué face aux deux.
Oui, mais 8 secondes, ça va, ça vient. Hein.
Ouais, donc ça va.
Mais des fois, c'est important parce que je connais un coureur qui a perdu le Tour de France pour 8 secondes.
Oui, voilà, c'est très important. J'allais venir à ça, 8 secondes, c'est énorme parfois. C'est qui vos favoris, tiens, Pierre et Kevin, pour le podium ? Est-ce que vous voyez Ben O'Connor revenir sur Geraint Thomas et Daniel Martinez ou est-ce que non, c'est figé, ça sera le Britannique et le Colombien ?
Alors pour moi, ça ne va pas forcément se jouer que à la pédale. Alors l'équipe a l'air plus forte côté Ineos. Ils sont trois, donc il va y avoir des coups de poker, des deux contre un. Moi, j'ai envie de mettre Martinez parce qu'il va vite au sprint, parce qu'il peut aller faire des temps justement sur les 500 derniers mètres, ce que n'arrive pas à faire O'Connor, et c'est là où il perd l'essentiel de son temps en fait. Hein. Mm. C'est sur des bouts d'arrivée qu'il ne joue pas grand chose. Donc j'ai envie de dire Martinez, mais je sens que ça va pas jouer que à la pédale non plus, forcément le plus fort hein, qui va être deuxième.
Et il y a que 15 secondes entre Thomas et Martinez.
Ouais, c'est ça. Ça va rester comme ça, Kevin.
Ouais,
Geraint Thomas deuxième.
Ça va pas bouger.
Ouais, parce qu'il y a l'expérience aussi de Geraint Thomas et on parlait de cet équipier Thiemen Arendsman, ça compte.
Non, parlez pas de ça. L'an dernier, il a perdu le Giro sur le dernier contre-la-montre, Geraint Thomas.
C'est vrai. Mais avec face à un coureur expérimenté qui était Primoz Roglic, mais c'est vrai qu'il avait complètement craqué Geraint Thomas. Mais cette fois, il joue plus la victoire. Il joue la deuxième place. C'est sa place finalement sur le Giro.
Oui, finalement, oui, il a un abonnement, oui.
Ouais, c'est ça. Donc, on verra. Et en plus, Daniel Martinez, en tout début de Giro, assez tôt, a perdu son équipier de luxe. C'était Lipovitz, hein, le jeune Allemand qui l'avait bien emmené d'ailleurs sur le Sanctuaire d'Europa, et, si je me rappelle bien, et finalement qui a abandonné. Donc voilà, grosse perte pour Martinez. Mais bon, on espère, parce que c'est ça en fait qui nous intéresse plus que la victoire de Pogacar, c'est cette lutte pour la deuxième place. Finalement, et elle est belle. Et c'est un des enjeux à suivre pour cette troisième semaine. Merci, messieurs. Non. Allez, on va se retrouver très vite dès la semaine prochaine, d'ailleurs, pour débriefer cette troisième semaine de course. Débriefer, évidemment, l'exploit monumental qui se dessine pour Tadej Pogacar, qui va continuer d'écrire un petit peu plus encore sa légende, lui qui devrait s'imposer, sauf malheur. Et évidemment, on lui souhaite pas au Slovène et qui devrait prendre le maillot rose et remporter le Giro parfaitement lancé dans la quête d'un doublé Giro Tour de France. Merci Pierre, merci Kevin, merci Cyril. Allez, je vous dis à bientôt dans Grand Plateau.
Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.